Il est de coutume de lire d'abord les textes et ensuite de les commenter ou de les méditer. Cette fois-ci, je le ferai en trois fois correspondant aux trois textes que nous propose la liste de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, c'est les textes qui sont lus dans la plupart de nos paroisses. Le premier se trouve au livre des Chroniques. C'est tout à la fin du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36. Ce sont en fait les derniers versets. Les grands prêtres et les chefs du peuple, tous plus infidèles les uns que les autres envers Dieu, se livrèrent aux pratiques abominables des populations païennes et profanèrent le temple que le Seigneur s'était consacré à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, plein d'amour envers son peuple et son temple, envoya à de nombreuses reprises des messagers pour parler de sa part. Mais les Israélites bafouèrent les messagers, se moquèrent des prophètes et négligèrent les paroles de Dieu. Alors le Seigneur finit par laisser éclater sa colère contre eux, au point qu'il ne put rien faire pour y échapper. Il fit envahir le pays par le roi de Babylone et livra tout à son pouvoir. Ce roi massacra les soldats jusque dans le sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes gens, ni les jeunes filles, ni les adultes, ni les personnes âgées. Il prit tous les objets de la maison du Seigneur, grands ou petits, ainsi que les trésors de la maison de Dieu, du roi et des ministres, et il emporta tout à Babylone. Les Babyloniens incendièrent la maison de Dieu, démolirent la muraille de Jérusalem, mirent le feu aux belles maisons et détruisirent tous les objets précieux de la ville. Le roi exila à Babylone ceux qui avaient survécu au massacre. Ils devinrent ses esclaves, puis ceux de ses descendants, jusqu'à l'avènement de l'Empire perse. Ainsi se réalisa la parole que le Seigneur avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans, jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos, pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Ici s'achève le premier texte du livre des Chroniques, parce qu'en fait, il y a encore trois versets à la suite qui ont été écrits bien plus tard, qui sont la reprise des trois premiers versets du livre d'Esdras, donc au moment où on revient de Jérusalem. Et voilà donc maintenant ces derniers versets qui sont écrits à la suite de ce que je viens de vous lire. Durant la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, le Seigneur décida d'accomplir la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans tout son empire de vive voix et par écrit le texte suivant. Voici ce que proclame Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu des cieux, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem, dans la province de Juda. Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux. Curieux texte que ces deux-là. Comme nous le savons, les hommes, l'humanité, les hommes font l'histoire, mais ils ne connaissent pas l'histoire qu'ils font. Et voilà que dans ces textes, nous entendons bien ce désir qui existe à toutes les époques et encore aujourd'hui de trouver une signification aux événements du monde, de trouver un sens. Ici, c'est clair, c'est que le Dieu d'Israël se révèle à travers les événements de l'histoire, quitte à réécrire l'histoire. Dieu se révèle d'abord comme libérateur, libérateur de l'esclavage en Égypte, dont nous n'avons aucune trace extérieure à la Bible de cet événement, de même que l'édit de Cyrus que nous venons de lire, aucune trace en dehors du texte biblique. Mais cela permet d'expliquer qu'au fond, Dieu gouverne les événements. Cela nous paraît aujourd'hui de l'ordre du fantasme, Mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas encore longtemps, quelques décennies, nous entendions facilement dans nos églises « Ah oui, nous nous rencontrerons dimanche prochain, Dieu voulant », comme si il allait empêcher que nous nous rencontrions. C'est ce que nous entendons aussi dans nos milieux musulmans avec le « Inch'Allah ». Cela entraîne au fond cette idée que quand des malheurs arrivent, c'est bien fait. C'est bien fait. Alors vous avez voulu abandonner le culte du Seigneur, comme les rois de Juda, et donc il est normal que vous soyez punis. Ah, vous avez fumé toute votre vie, c'est normal que vous ayez un cancer. On n'en est pas tellement loin dans notre pensée d'aujourd'hui. Et peut-être bien qu'au travers de tout cela, ce qui s'exprime, c'est que le Dieu d'Israël est un Dieu universel qui transcende les frontières, qui est capable d'utiliser finalement Cyrus, ce Perse, persécuteur d'ailleurs, ce Perse pour en faire son Messie. Peut-être à nous aujourd'hui, il nous invite à essayer de lire au plus près les événements que notre monde traverse. Le deuxième texte qui nous est proposé se trouve dans l'Évangile. Je laisserai l'épître pour la fin. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme nous l'avons entendu il y a quelques minutes, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Christ n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal, et qu'ils le savent. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Vous l'avez remarqué, j'ai insisté sur le présent. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je ne veux pas entrer dans les considérations sur l'après-vie parce que je n'ai pas de lumière particulière sur ce sujet. Quelle est la condamnation qui est déjà présente? Le texte nous parle de l'obscurité. L'obscurité, vous savez, c'est tout le débat de l'époque des Lumières. There is no darkness but ignorance. C'est pas une question de lumière et de ténèbres, c'est une question de recherche, de raison et de compréhension. Et le secret que nous donne cet évangile, c'est tout simple. Quel est le signe qui montre le mal? C'est justement ce refus de la lumière, de la clarté et de la transparence. D'où l'intérêt pour notre société d'une association comme Transparency International. Aujourd'hui, il y a tout ce que dans nos vies, nous souhaitons garder sur le bas-côté de la route, que cela ne soit pas trop connu. C'est sans doute très légitime, car cela permet de ne pas faire poser sur nos épaules notre passé. C'est un peu ce qui se passe dans ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Au fond, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, peut-être bien qu'il n'y aura pas lieu, justement, de condamner. Mais je pense à deux domaines qui tombent bien dans cette visée de l'Évangile d'aujourd'hui. Ce sont d'une part les secrets d'État. Et aujourd'hui, avec les événements d'Ukraine, ils circulent par plein wagon, de tous côtés. Non pas les secrets, mais les fausses informations. Mais peut-être que cela est au fond nécessaire dans notre monde. Cela fait partie de notre monde qui n'est pas un monde moral. C'est un peu ce que nous comprenons. Je relisais, j'écoutais une conférence au Collège de France sur le livre de Job qui essayait de montrer que l'itinéraire de Job, c'est un peu l'itinéraire de l'adolescent qui se rend compte que le monde n'est pas finalement gouverné par le principe de plaisir, mais qu'il y a la réalité et que cette réalité est très différente. Et Job, au départ, tout va bien. Après, ça va moins bien. Et à la fin, il comprend qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et peut-être bien que le Dieu n'est pas si moral que cela. Les secrets d'État, je mettrai ça un peu entre parenthèses, parce que comme disait Charles de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ce qui est tout à fait juste, hélas. Il y a un deuxième ou troisième domaine qui me semble important aujourd'hui et qui est bien révélateur de ce mal profond, ce qu'on appelle le secret des affaires. Pourquoi faut-il que les affaires restent secrètes? Il y a tant de choses à cacher, il y a tant de choses qui sont finalement violentes sans vouloir paraître ainsi. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à être des enfants de lumière. Il faut savoir que cela est une assaise difficile de tous les instants. Et pour le coup, cela peut mobiliser beaucoup, beaucoup de force et d'énergie. Enfin, j'en viens au troisième texte qui se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Un peu la même veine, Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, par la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut en être fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce texte m'a fait penser à un film qui date un peu maintenant de plus de 40 ans, qui a eu un grand succès populaire, peut-être pas le meilleur des films de réflexion, qui s'appelle « Le professionnel ». Vous pouvez imaginer ce film avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, mais il est surtout connu par sa musique. Ennio Morricone a fait une musique qui est réutilisée de nombreuses fois un peu partout. Il y a, dans une scène de ce film, deux fugitifs, le héros et un co-détenu blessé à mort dans leur tentative d'échapper. Celui-ci pose la question au héros, « Je vais mourir ?» Et celui-ci a l'honnêteté de lui répondre « Oui ». Vous savez bien que le plus souvent, quand quelqu'un pose cette question, on répond « mais non, n'inquiète pas », alors que nous n'y pensons pas un instant. Il lui répond donc « Oui » et il poursuit « Tu as peur ?» Et l'autre dit « Non, car je vais au paradis ». Vous imaginez que cet homme était de confession musulmane. Luther s'est trouvé dans la même situation avec cette question : comment obtenir en fait la grâce de Dieu ? Coincé entre cette angoisse existentielle, finalement, et la lecture de ces paroles qui affirment avec certitude le pardon de Dieu. Dieu est riche en miséricorde. Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Vous voyez bien déjà là le refus radical de ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie des mérites, celle dans laquelle il faut gagner son ciel, comme l'on disait, par une vie magnifique, magnifique d'honnêteté, de clarté et de transparence. La question, c'est qu'après ce verset, il y en a un autre. C'est souvent comme ça. Avec ce qui nous semble être le retour du mérite, en quelque sorte. Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et par la foi. Alors, on en a déduit qu'il fallait avoir cette foi, car au fond, chacun, chacune d'entre nous refuse d'être redevable de quoi que ce soit, d'un cadeau, refus du don gratuit. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous sommes invités ou nous apportons toujours quelque chose, bien sûr. Peut-être que la reconnaissance, simplement, de recevoir quelque chose gratuitement est impossible. Est impossible à notre humanité, qu'il nous faut toujours racheter. Alors la foi devient aussi un mérite. J'ai repris ce texte dans plusieurs traductions. La nouvelle traduction en français courant dit « Vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Bon. La traduction parole de vie, à l'extrême limite et peut-être même au-delà de la frontière de ce qui est acceptable, dit « Vous êtes sauvés par ce que vous croyez ». Parce que vous croyez. Alors, dans cette compréhension des choses, la foi risque de devenir une exigence doctrinale, en quelque sorte. Quelle est la foi droite? Quelle est la bonne? On parle d'orthodoxie. On parle d'excommunier ceux qui ne sont pas dans la foi droite et juste. La foi confessée, dans ce sens-là, devient une arme, non pas de pardon, mais d'exclusion. Mais, si nous reprenons le texte, vous avez été sauvés par la foi, dit à travers, en passant par. D'abord, cela est au passé. Vous êtes déjà sauvés, ayant été sauvés, si on traduit littéralement, c'est un peu lourd. Alors il n'y a plus rien à faire pour obtenir ce salut. Et puis en même temps, par la foi, mais moi je poserai la question, vous savez, j'aime bien poser des questions, surtout quand elles sont difficiles à résoudre, évidemment. La foi, oui, mais de qui? Je ne dis pas en quoi ou en qui, hein, mais la foi de qui? Parce que j'aurais tendance personnellement à penser que nous sommes sauvés par la foi que Dieu a en nous. Il a sans doute beaucoup plus confiance en chacun et chacune de nous que nous-mêmes. Nous avons confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi la conclusion de tout cela me semble être ce passage bien connu de la première à Timothée, que l'on trouve aussi dans les Romains. la grâce surabonde. Elle a surabondé pour moi la grâce de notre Seigneur dans la Tobe pour la première à Timothée, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, et non pas dans mon cœur. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, écrit l'apôtre Paul. Savons-nous vraiment en être persuadés? Pour tordre un peu le texte à peine, quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, finalement, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous pouvons très légitimement ajouter, pas même notre péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais sommes-nous vraiment persuadés de tout cela? Je suis toujours mal à l'aise, souffrant presque, dans les liturgies orthodoxes où on entend des kyriés, je ne sais pas combien vous en comptez dans une liturgie, mais vous en comptez facilement 150. Ça veut dire que le premier ne suffit pas. On veut toujours encore un autre. Cela m'apparaît, pour le coup, comme un manque de foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais simplement que nous gardions ces quelques versets de l'Épître aux Éphésiens. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le résultat de vos efforts. Ainsi, personne ne peut faire le fier. Qu'il en soit ainsi.